Ce matin, je vais parler du service. Forcément. Le but de ce mois sur le service est de nous aider à mettre le doigt sur qui nous sommes. Ah bon ? Quelle est notre personnalité ? Oui. Quels sont nos dons ? Nos passions ? Tout ce que Dieu nous a donné. Le but est de nous aider à trouver des moyens pour débuter, pour commencer à exprimer notre ministère pour la gloire de Dieu. Servir notre Dieu, notre prochain. Nous souhaitons avec les responsables de l'Église que 90% de cette assemblée serve dans les 3 prochains mois. On peut compter sur vous ? Non ? Nous avons prié pour cela et nous nous attendons à l'action de Dieu pour voir des fruits dans l'Église. Alors une bonne question a déjà été posée, pourquoi servir Dieu ? Pourquoi servir Dieu ? Une excellente question, n'est-ce pas ? Mais moi, je suis tellement bien sur ma chaise. J'aime vivre ma semaine tranquille, pépère. Je n'aime pas qu'on m'impose quoi que ce soit. J'aime être libre. Ne pas avoir une responsabilité, sinon ça va m'enchaîner. Je ne peux pas faire ce que je veux. J'aime quand tout arrive sur un plateau. Le choix des plats, les desserts. Je n'ai plus qu'à me servir. Chauffer une chaise me va bien. Est-ce notre langage ? D'autres diraient, il faut toujours servir son prochain. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Cela plaît à Dieu, donc il faut servir un point, c'est tout. Est-ce notre langage ? D'autres encore disent qu'il faut servir, car cela nous donne de la valeur. Je me sens si bien quand je sers. En fait, faut pas le dire, mais je me sens surtout bien quand on m'applaudit. Car en fait, je sers pour les compliments. Est-ce notre langage ? Pourquoi Dieu veut qu'on le serve ? A-t-il besoin de nous pour cela ? Ne pourrait-il pas se faire des robots et tout se fait tout seul ? Pourquoi Dieu veut qu'on le serve ? Pourquoi le service ? Un élément de réponse est tout simple. Parce que servir quelqu'un, Dieu ou une personne, c'est aimer en action. C'est aimer en action. Le service, c'est utiliser tout ce que Dieu m'a donné pour exprimer de manière concrète mon amour pour lui et pour les autres. En fait, servir, c'est aimer. Ah ouais, d'accord. Intéressant. Le service s'accomplit dans 3 directions. Le service de Dieu attend de nous que ça s'accomplisse justement dans ces 3 directions. Première direction, envers Dieu. Envers le Seigneur, il y a le psaume 102 qui dit ceci, « Servez le Seigneur joyeusement. » Deuxièmement, envers les croyants, ceux qui croient déjà au Seigneur. Hébreux 6, verset 10, « Dieu n'est pas injuste, il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens, et vous le faites encore maintenant. » Et troisièmement, envers les non-croyants. Matthieu chapitre 5, verset 19, un texte extraordinaire. « Votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres entendront ce que vous dites. » Non. Voilà ce qu'il dit. « Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. » Waouh ! Est-ce que les gens voient de moi poussent les gens à louer Dieu ? Grande question. Voici ce qu'est le but du service. Dieu désire nous utiliser pour aider les autres à grandir. Et je pourrais ajouter, et pour le bien de tous. Et en fait, c'est le bien de tous, pour aider à grandir. Un texte très fort, Éphésiens 4, 11 à 13. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite du Christ. Tout ça. 1 Corinthiens 12, verset 5, il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Nous cherchons toujours, quand nous servons Dieu, à atteindre les 5 objectifs de l'Église que je vous rappelle maintenant. Célébrer la présence de Dieu, c'est l'adoration, jouir de la famille de Dieu, la communion fraternelle, former le peuple de Dieu, la maturité, démontrer l'amour de Dieu, ministère, service, partager notre foi, l'évangélisation. Tout ce que nous faisons sera toujours pour accomplir l'un des objectifs de l'Église, que Dieu a pour son Église. Le service, j'aimerais dire une chose là qui est importante, c'est au cœur de la vie chrétienne. Le salut en Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection pour le pardon de nos péchés, pour notre pardon, entraîne automatiquement un appel à le servir. Les deux ne peuvent pas se détacher. C'est impossible. Chaque croyant est créé, sauvé, libéré du péché, du mal qu'il a commis en vue de servir Dieu, en vue d'exprimer de manière concrète son amour pour Dieu et pour les autres. C'est même un commandement, on l'a vu déjà tout à l'heure. Hébreux 2, versets 9 à 10. En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Et parce que vous croyez, cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous le donne, qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions, les actions que vous aurez faites. Donc personne ne peut se vanter. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Le texte ne dit pas que nous devons mener une vie riche en actions bonnes pour avoir une place au paradis, dans la présence de Dieu, etc. Non, le texte nous dit que nous avons reçu l'accès à Dieu par l'immense bonté de Dieu. Aucune action de notre part ne peut nous donner accès à Dieu. Et qui de nous pourrait prétendre atteindre le Dieu trois fois saint par ses actions si imparfaites, toujours entachées de péché? Seul le cadeau que Dieu nous donne, qu'est Jésus-Christ, sa mort à notre place et sa résurrection, nous ouvre les portes de la présence de Dieu. Le texte continue ainsi, il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en œuvres, en actions bonnes. Nous ne servons pas Dieu pour être sauvés de la mort et du péché. C'est plutôt le contraire. Nous servons Dieu parce que nous sommes sauvés de la mort et du péché, par l'œuvre de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Donc notre vie riche d'œuvres bonnes se résume en un seul mot, reconnaissance. Reconnaissance. Retenez bien ce mot, parce que si on parle du service, notre vie, si elle est bouleversée par Jésus-Christ, par ce que Christ a fait pour nous à la croix, notre service sera toujours reconnaissance. Parlons de l'une des priorités des responsables de l'Église. Je vais peut-être vous surprendre, mais équiper les membres de l'Église pour leur ministère, pour servir, doit être l'une des priorités des responsables de l'Église. Ce sont les membres qui accomplissent plusieurs ministères. Bien sûr, les responsables ont un ministère, mais les membres sont formés pour cela. Et Éphésiens 4:11, je relis, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, il y a prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu chauffent leurs chaises, soient spectateurs, reçoivent tout sur un plateau. Non, soient rendus aptes à accomplir leur service, mince, leur service en vue de l'édification, la construction du corps de Christ. Les responsables sont là pour former ceux qui appartiennent à Dieu aux tâches du service, en vue de l'œuvre du ministère, pour accomplir leur service. Dans quel but ? Pour l'édification de l'Église, pour la construction, pour la faire croître, pour la faire grandir. Ayons toujours cette vision de l'Église. Les responsables de l'Église ont pour priorité de former ses membres pour servir dans le but de faire croître l'Église spirituellement. Amen. Ça, c'est le projet de Dieu pour l'Église. Le service, une chose que j'aimerais dire, c'est le service n'est pas une chose que nous faisons n'importe comment. Parlons d'excellence. Puisque nous sommes reconnaissants envers notre grand Dieu de nous avoir donné accès à sa présence par Jésus-Christ, nous nous attendons à l'excellence. Plusieurs peuvent avoir peur quand on parle d'excellence. Mais l'Église, ce n'est pas une entreprise. Mais l'excellence, ce n'est pas la perfection. L'excellence, c'est faire de son mieux pour honorer Dieu. Oui, Dieu mérite le meilleur de nous-mêmes. Il s'est sacrifié pour nous. Il attend de nous ce que nous nous donnions tout autant pour lui. À l'Église d'Ozoir, nous voulons encourager la créativité, l'innovation, et nous sommes conscients que cela peut entraîner des erreurs. Donc il y a des personnes, des fois, qui ont peur de se faire taper sur les doigts. Mais si nous ne commettions pas d'erreurs, cela signifierait que nous ne grandissons pas ou que nous n'essayons rien de nouveau. Ne parlons donc pas d'échec quand nous n'avons pas réussi quelque chose. Disons plutôt que nous avons vécu une expérience qui n'a pas marché. Un projet qui n'a pas fonctionné ne signifie pas que la personne qui en est à l'origine soit nulle. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est tout ou rien, quoi. Si on a fait quelque chose de pas bien, ah, j'étais nul. Nul, c'est vraiment zéro, quoi. Attention aux mauvaises pensées que nous avons sur nous-mêmes. Hein. Nous ne sommes pas des zéros. Hein. Soyons gentils avec nous-mêmes. Il n'y a pas de mauvaises personnes aussi. Même s'il arrive qu'on essaie un ministère et puis on se rend compte que dans ce service, à tout compte fait, c'est peut-être pas là que je devrais être. Ça ne veut pas dire que d'un coup nous sommes une mauvaise personne. Nous sommes nuls. Au contraire, réfléchissons à qu'est-ce que Dieu veut pour moi alors. Peut-être que ce n'est pas là, mais dans un autre service. Il n'y a pas de mauvaise personne. Donc osons essayer différents ministères. J'encourage cela ce matin parce que je sais qu'il y en a. Non, je ne veux pas parce que. J'ai peur que, et puis on va me taper sur les doigts. Non, 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 on ne vous tapera pas sur les doigts. Hein? Au contraire, sur la tête. Ne nous décourageons pas. Hein? Servons pour voir où nous pouvons être utiles pour la croissance de l'Église. Et moi, j'ai eu ce privilège. Dès que je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Il a bouleversé ma vie, j'avais envie de le servir. Et très vite, je l'ai servi dans plein de choses. Et cela m'a permis de voir où étaient mes dons. Où sont mes passions? Qui je suis et comment je peux être utile à la croissance de l'Église? Important. Autre chose, les ministères vont et viennent comme les saisons, en fait. Ça, c'est important de l'entendre. Si un ministère, un service ne répond plus à un besoin actuel, il peut arriver qu'on le supprime. N'ayez pas peur de cela. Il arrive aussi qu'il y a des saisons. Donc ça, il faut le respecter. Nous ne sommes pas prêts, alors il faut bien entendre cela, nous ne sommes pas prêts pour le ministère tant que nous ne sommes pas prêts à servir dans n'importe quel domaine. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ? Parce que servir, ce n'est pas avoir une place que nous convoitons. Mais c'est être utile pour le bien de tous, pour la croissance de l'Église. Être dans un ministère, certains le voient comme être sur une tour d'ivoire. On est là, très haut, placé, on doit grimper les échelons et jusqu'à arriver à quelque chose. Non, ce n'est pas cela, l'Église. Ce n'est pas cela ce que Dieu entend par notre ministère, notre service. Donc, nous devons être prêts à servir partout. Toujours pour le bien de tous et la croissance de l'Église. Alors, on pourrait oser dire quelque chose d'intéressant. Quelqu'un a bien dit. Nous devons avoir un ministère principal et un ministère secondaire. Bizarre de le dire comme ça, hein ? Mais secondaire est toujours aussi important, n'est-ce pas ? L'un n'enlève pas l'autre, en fait. Le ministère principal se situe dans le domaine dans lequel j'ai un don. Ok ? Le ministère secondaire, c'est servir dans n'importe quel domaine où il y a un besoin. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est comme la personne qui dit « Moi, je ne ferai jamais la vaisselle. » Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas mon don. Ah, il en profite bien, lui. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas parce que lui, il a un don particulier peut-être pour les enfants ou pour quelque chose dans l'Église qu'il ne peut pas servir et être prompt à servir les autres dans d'autres domaines. Donc, on y voit là deux manières de voir les choses. Un ministère principal et un ministère secondaire. Je vais maintenant donner 10 vérités très encourageantes concernant le service. Premièrement, j'ai été créé pour servir. On l'a entendu dans Éphésiens que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Deuxièmement, j'ai été sauvé pour servir. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte et consacrée. C'est lui qui nous a adressé notre vocation particulière. 2 Timothée chapitre 1. Troisièmement, j'ai été appelé pour servir. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je sois né et m'a appelé à le servir. Galates 1. J'avais envoyé cette citation que je trouve intéressante. Je ne suis pas ce que je pense que je suis. Je ne suis pas qui vous pensez que je suis. Mais je suis vraiment ce que Dieu dit que je suis. Voici une vérité qui transforme la vie. En Jésus-Christ, nous avons changer d'identité. Nous ne sommes plus éloignés de Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants. Nous sommes sa famille. Et nous sommes aussi ses serviteurs. Nous servons Dieu par amour pour lui. Quatrièmement, j'ai reçu des dons pour servir. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qui le met au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. 1 Pierre 4. Cinquièmement, j'ai reçu l'autorité pour servir. On pourrait y comprendre un peu cela dans cet appel de Matthieu 28, 18 à 19. Tout pouvoir m'a été donné, donc Jésus-Christ qui dit ça pour lui-même. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et là, il nous donne aussi cette autorité pour faire des disciples. Et là, on peut y voir aussi le service. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, de Corinthiens chapitre 5. 5. Sixièmement, j'ai reçu l'ordre de servir, on l'a entendu, servez le Seigneur joyeusement. Psaume 100, verset 2. Septièmement, je dois être équipé pour servir, on l'a vu aussi dans Éphésiens 4, 11 à 12. C'est lui qui a donné apôtre, prophète, évangéliste, berger et enseignant. Il a fait pour former les saints aux tâches du service. Huitièmement, le corps de Christ a besoin de mon service. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Et quand on parle des membres, on ne peut pas laisser un membre tout seul. Ça ferait bizarre si je suis sans mon bras, sans ma jambe. J'ai besoin du corps dans son entier, explique Paul. Neuvièmement, je suis responsable de mon service. Ainsi donc, chacun de nous, ça dit même cela, rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14. Et dixièmement, je suis récompensé pour mon service. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Colossiens 3. Je vais maintenant finir en donnant quatre endroits où nous pouvons commencer à servir. Aïe, aïe, aïe. Maison, travail, petit groupe, église. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Philippiens 2. Un texte très difficile à mettre en pratique, n'est-ce pas ? L'endroit le plus important où nous pouvons exercer le ministère, servir, c'est à la maison. Que nous soyons mariés, célibataires, un enfant, un parent ou un ami, Dieu nous appelle à nous humilier et penser aux intérêts des autres avant les nôtres. Et le meilleur endroit pour le faire, cela est avec ceux qui nous sont le plus proches. Les hommes, vous servez votre femme. Je ne dis pas mesdames, parce que normalement, c'est naturel pour vous. Ah, merci Manu, merci. Et les hommes, oh mais Manu, tu fais quoi là? On se calme. On se calme. Servir à la maison. Qui est cette personne à la maison que vous pouvez commencer à servir? S'il y a un problème à ce niveau, réajustons les choses. Deuxièmement, servir au travail. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ça, ce n'est pas juste enfermé à l'église, c'est aussi en dehors. Notre travail journalier peut souvent nous sembler le dernier endroit où nous voudrions servir. Nous sommes occupés par notre rôle, nos responsabilités, nos tâches, au détriment d'être au service de ceux qui se trouvent dans notre entourage. Et encore moins, on veut servir ceux qui nous embêtent. Et nous avons vu il y a quelques dimanches que Dieu nous appelait à aimer nos ennemis. Pas dans le sens d'approuver ce qu'ils font, mais de pouvoir à leurs besoins quand on voit qu'ils sont dans le besoin. Pensons aux relations que nous avons sur notre lieu de travail. Est-ce que Dieu nous appellerait à aimer une personne au travers du service? Pensez à une personne peut-être. Cet après-midi, nous prendrons le temps de cocher cette personne. Ce sera plus pratique. Troisièmement, servir au sein de notre petit groupe. Nous avons déjà dit tout à l'heure, nous avons des groupes de maison. Il est dit ceci, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns les autres. La communauté de croyants intime, là où nous nous retrouvons avec 2, 3, 10 personnes, c'est là que Dieu veut qu'on puisse aussi se soutenir et pouvoir se servir les uns les autres. Si vous êtes impliqué dans le cadre de n'importe quel petit groupe, choisissez au moins une personne que vous pouvez bénir en la servant. Quatrièmement, servir au sein de l'Église. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et en particulier, c'est surprenant que le texte puisse nous dire ça. On dit oui, il faut servir tout le monde. Mais il y a quand même une nuance là, dans le texte. Envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. Dieu appelle ses enfants, on dirait, à faire un effort spécial, à servir ceux qui font partie de l'Église. Tout le but de cet après-midi et que chacun d'entre nous exerce un service avec sa personnalité, ses dons, ses passions et ses expériences dans notre assemblée, mais aussi partout. Et vraiment là, je vous encourage, je nous encourage à servir notre prochain. Partout, partout, nous voyons qu'il y a des besoins. Il y en a tellement de personnes qui sont dans le besoin. Avez-vous déjà trouvé votre don? Là où vous pouvez servir? Ou peut-être que vous servez déjà? Mais cette formation est pour vous cet après-midi. Je vous attends pour 14h30. Donc je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous avoir donné la vie éternelle grâce au sacrifice de Jésus-Christ, mort à notre place pour le pardon de nos péchés. Merci parce que nous pouvons exprimer notre reconnaissance et notre amour envers toi et envers les autres par des actes concrets. Tu l'as fait et tu continues à le faire dans nos vies. Et nous voulons le faire aussi. Aide-nous à te ressembler, à te servir partout, dans nos familles, dans nos lieux de travail, auprès de nos voisins, dans nos petits groupes, dans l'Église. Que cet après-midi, nous puissions ouvrir les yeux sur comment tu peux nous utiliser avec notre personnalité, nos dons, nos passions, nos expériences passées, même expériences douloureuses. Tu veux nous utiliser malgré cela. Au travers de tout cela, montre-nous là où nous pouvons te servir pour ta gloire. Père, nous nous attendons à l'action de ton esprit pour voir des fruits durables pour le bien de tous et la croissance de ton Église à Ozoir. Merci de nous conduire pour la suite. Au nom de Jésus. Amen.